en papier que je tape sur une chaise. Mais on vous a fait écouter du Auto Mélodie, du BB Club, du Labronze, Anthony Carl, Jamila.
Pour sa 13e édition, le OFTEA, Festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le oftea.com.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
En direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour, mon nom est Mégane Bédard et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 197 de Pop en Stock. On va commencer par une histoire. Donc, la fin de semaine du jour de l'indépendance américaine 2014, un garçon appelé Zach Danger Brown a publié sur Kickstarter, la campagne de socio-financement, une demande pour essayer de financer une recette de salade de patates. Donc, on a beaucoup parlé de la fameuse salade de patates. Un mois plus tard, malgré son objectif initial d'une centaine de dollars, 6911 contributeurs avaient réussi à lui donner 55 492 $ pour sa recette de salade de patates. Il en a fait un livre de recettes, a contacté des chefs cuisiniers pour essayer de se dépasser et faire la meilleure salade de patates qu'il aurait pu faire de toute sa vie. C'était la première fois qu'il cuisinait une salade de patates. Je pense que ça peut être, on peut appeler ça un success story. Donc, aussi plus récemment et de façon plus moins démesurée, il y a eu une campagne de socio-financement pour un projet, un stream de Donjons et Dragons qui s'appelle Critical Role, qui lui a réussi à ramasser près de 11 386 000 $ pour faire une série d'animations adaptées de leur histoire de Donjons et Dragons. Donc, ça nous a un peu inspiré à nous réunir aujourd'hui pour parler d'un phénomène qui gagne de plus en plus en popularité depuis les 10 dernières années, parce que ça fait un peu plus que 10 ans que le phénomène prend de l'ampleur, surtout sur Internet, c'est-à-dire celui, non pas des salades de patates, mais des campagnes de socio-financement et de leur rôle dans l'industrie culturelle contemporaine, dans la manière dont on crée et achète des produits culturels aujourd'hui. Et pour en parler en studio, j'ai avec moi trois personnes qui ont des connaissances variables et diversifiées sur les campagnes de s'autofinancement. En commençant par Roxane Chartrand. Allô, Roxane.
Salut.
Oh, je pense que c'est quoi ton micro?
Le 3.
Le 3.
Il est allumé.
OK, bon, je t'entends bien. Oui, Roxane, qui n'a jamais pledgé un Kickstarter de toute sa vie, mais qui connaît très bien Critical Role et son fandom, donc c'est pour ça que tu viens nous en parler aujourd'hui.
Ouais, je pense que je suis rendue un petit peu l'espèce d'experte officielle de Critical Role, de Pop en Stock. La première fois que je suis venue à Pop en Stock, c'était pour parler de Critical Role, justement. Fait que je pense que si on parle de Critical Role, il faut que je sois là, même si c'est pour un sujet que je suis... assez nul, les campagnes de socio-financement. C'est ça, comme tu as dit, j'ai jamais donné d'argent à une campagne de socio-financement. Donc, je vais être un petit peu la débutante.
Oui, mais tu as suivi quand même avec attention la campagne de socio-financement qui s'est passée en avril dernier. Donc,
absolument. Donc, j'ai quand même certaines connaissances.
Ouais. Mais c'est ça, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est ça. Les campagnes de socio-financement, comme on a pu s'en rendre compte en brainstormant un peu sur le sujet avant d'entrer en onde, ça touche de nombreuses sphères et dont celle des fandoms et des communautés de fans. On y reviendra un peu plus tard. Ensuite, avec nous en studio aujourd'hui, on a Alexandre Poirier qui fait un retour à Pop en Stock.
Allô?
Allô?
Allô? Je suis ressuscité. Ben je sais pas.
Bienvenue, ça fait quand même un bout.
Ben oui. Ça fait des mois, là, j'étais dans ma caverne, je sais pas trop.
La caverne de Platon.
Ouais, la caverne... Non, je sais pas.
Mais oui, c'est ça. Mais toi, je le sais beaucoup parce que j'ai vu souvent pledger à des campagnes de Kickstarter.
Oui,
donc,
oui, j'ai pledgé beaucoup. J'étais en sevrage depuis quelques années. J'ai pledgé beaucoup, en fait. J'ai participé au financement de beaucoup de projets, surtout au niveau du jeu de plateau. Mm-hmm. Et en fait... Le jeu de plateau, on en reparlera, mais c'est vraiment la plateforme... Kickstarter, c'est la plateforme idéale pour justement le renouveau du jeu de plateau, du jeu de société. Donc, pas mal ça.
Ben ouais. Donc, du côté du consommateur et du côté aussi du producteur et créateur de campagne de socio-financement, on a Éric Falardeau avec nous en studio.
Bonjour, ça va bien?
Oups!
Le quatrième.
On va toutes les ouvrir. Vas-y.
Oui. Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, très, très bien.
Hey, merci d'être là avec nous. C'est ça, toi, tu avais créé une campagne de sous-financement pour un long métrage.
Oui, c'est ça qui a... enfin, on a fait le long métrage, mais c'était un échec complet. Donc, on pourra y revenir plus tard en jasant cinéma, parce que, bon, Kickstarter est une bonne plateforme, entre autres Kickstarter, pour monter donc des financements de films, mais également pour susciter un intérêt auprès de vrais producteurs et même des institutions de financement. Et donc, ça soulève toutes sortes de questions. Mais sinon, j'aime ça aussi quelquefois pledger pour des trucs. Oui. Donc,
Occasionnellement,
oui.
C'est quoi un peu le domaine dans lequel tu mets le plus d'argent habituellement?
C'est souvent des rééditions d'objets assez rares, là, par exemple des trames sonores ou même des livres sur des sujets très spécifiques qui ne seraient pas publiés autrement. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, entre autres, il y a eu un livre en France qui a été fait sur les affiches de films pornographiques des années 70-80, pornographisme, donc personne voulait financer cette chose-là, donc ils ont fait un Kickstarter et ça a été un succès qui a été repris ensuite par une maison d'édition. Donc, un peu la même chose que pour les films, et c'est assez drôle de voir justement comment l'industrie se positionne par rapport à ces nouveaux modes de financement alternatifs-là.
C'est ça, c'est un peu comme un tremplin vers justement des modes de production plus institutionnalisés dans ce sens-là.
Oui, effectivement. Puis d'un autre côté, qu'est-ce qui est intéressant, je pense, je saute un petit peu tout de suite dans le vif du sujet, là, mais c'est aussi de voir que dans des industries qui sont très coûteuses pour produire des produits culturels, que ce soit justement le cinéma ou même le jeu vidéo, ben dans certains cas, on attend de voir si les créateurs vont réussir à toucher un public, soit avec un Kickstarter ou quelquefois d'autres types de productions pour montrer justement qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans le projet. Donc, on prend pas de risque. Donc, ça pose d'autres questions sur ce qu'on finance comme type d'art, et donc notre pouvoir aussi en tant que consommateur et spectateur, etc., etc.
Ben on voit que c'est vraiment rendu au centre justement de toute cette industrie-là de production, surtout, là on va parler beaucoup de production culturelle aujourd'hui, mais ça, Kickstarter touche beaucoup d'autres sphères, dont l'immobilier, la santé, Donc, il y a beaucoup de gens qui créent des campagnes de socio-financement pour financer leur entreprise, pour financer leurs petits projets, pour financer, en regardant rapidement aussi le top 10 des Kickstarter les plus rentables. On a beaucoup d'objets qui font partie de la liste. Donc, en première place, on a le Pebble Times Smartwatch qui était toute une collection de montres intelligentes qui a été vendue à Fitbit, donc plusieurs années après, qui avait fait 20 millions de dollars. Le Coolest Cooler.
Coolest
donc,
Cooler.
Le Coolest Cooler. Qui est à la fois un cooler, un blender, un jukebox. Eh boy! Un beau box, parce qu'on peut l'amener dans le parc et faire jouer de la musique. Ça, c'était vraiment un cossin. Il y avait aussi en septième place le Bobax Travel Jacket, qui est un jacket avec des cossins dessus aussi. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui font des campagnes de socio-financement pour des cossins, des gogos. Les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans des gogos, on le voit, dans les millions de dollars. Les chiffres que je donne ici, c'est tout en argent américain, donc, parce que c'est souvent des entreprises américaines. Mais aussi, parmi le top 10, on a beaucoup de jeux de société, de produits culturels. Oui. Donc, j'ai parlé de Critical Role, qui a maintenant la cinquième place dans les Kickstarter les plus rentables. Et des board games. Donc, on a Exploding Kitten.
Tout à fait.
Qui est les petits minous qui explosent.
Les petits minous qui explosent, qui est vraiment un jeu de cartes. De roulette russe un peu, ouais, dans lequel on joue des cartes. Mais il faut faire quand même attention avec tout ce qui est rentabilité de la campagne de socio-financement. Oui, Exploding Kittens, c'est vraiment un des trucs qui a rapporté le plus d'argent au monde. Mais je lisais un article tout récemment, en fait, je pense que c'est le site Polygon qui faisait une entrevue avec les créateurs de Exploding Kittens. Et en fait, oui, le jeu a fait des millions de dollars, mais ils n'ont pas fait tant de profit que ça parce qu'ils ont décidé d'investir cet argent-là dans un premier temps pour se payer un salaire raisonnable. Et quand je dis raisonnable, c'est on parle de un 40 000 par année pour le créateur ainsi que pour ses employés. Donc, on parle pas d'un gars qui a fait des millions de dollars dans ses poches puis qu'il... Il a fait une salade de patates. Non, mais je veux dire, on parle pas d'un gars qui a fait des millions de dollars puis qui s'en lave les mains puis il paye personne, je veux dire. Puis, en fait, le jeu de plateau, oui, il y a des histoires à succès incroyables, mais c'est pas rentable faire un jeu de plateau sur Kickstarter. Ça coûte énormément d'argent. Les frais d'impression, les frais d'expédition, la plupart des trucs, même les jeux québécois qu'on retrouve sur les tablettes aujourd'hui, sont fabriqués en Chine. Puis ça coûte énormément. Faut que t'en produises énormément pour faire ne serait-ce qu'un peu d'argent. Je pense que la marge... Je pense qu'il disait que la marge de profit pour, justement, Exploding Kittens, c'était un 2$ par copie pour un jeu qui se vendait peut-être 25$ américains. Donc c'est pas énorme là.
Puis les profits, c'est ça, souvent les créateurs prennent ce profit là pour les réinvestir plus tard dans un autre jeu là, mais il y a pas juste se payer qui gruge aussi du budget, parce que souvent dans une campagne de sous-financement, on offre des cadeaux, il faut
des t-shirts,
des casquettes,
des affiches,
pins,
des affiches puis faut poster toutes ces choses là c'est souvent l'angle mort, beaucoup de créateurs qui proposent des Kickstarter puis que finalement ils se retrouvent à devoir payer pour leur Kickstarter même s'ils ont atteint leur limite, parce que bon, toutes ces contreparties là doivent être remises aux différents supporters. Puis bon, quand c'est dans ta ville, ça va bien, mais c'est pas le cas,
c'est ça, outre-mer, avec 15-20$ parfois de shipping. Mais il y a aussi, puis ça on va un peu plus rentrer dans le sujet éventuellement, mais j'aimerais ça qu'on, par rapport à ce sujet-là, les gogos qu'on veut vendre pour attirer les gens, et les autres types de façons de faire du socio-financement, comme les préventes de jeux vidéo qui sont de plus en plus populaires maintenant. Ouais. Donc, je pense juste à une histoire d'horreur qui s'est passée l'année dernière avec Fallout 76.
Ah, oui.
Où il y avait une prévente avec plein de cadeaux qui avaient été promis.
Dont le fameux sac.
Ouais.
le fameux sac, en fait, qui était censé être un sac en canevas de qualité, style sac de guerre qu'on retrouverait dans un surplus d'armée, puis finalement qui a été un sac de nylon.
C'est super cheap.
Et bon, au final, ça s'est réglé. Je veux dire, les gens ont reçu un sac de canevas de qualité, mais...
Les gens payent plusieurs centaines de dollars pour avoir ces cadeaux-là, mais au final, c'est on peut se demander est-ce que c'est juste une gimmick des grosses compagnies pour ça. La différence entre Bethesda et les campagnes de sous-financement, c'est que c'est souvent plus des particuliers qui font des campagnes.
Ouais.
Alors que quand c'est les grosses compagnies, ben...
Mais il y a aussi, il y a des histoires quand même de succès, là, même au niveau des Gugus, là, qu'il y avait dans les différents tiers de dons dans Kickstarter. Je pense à des trucs comme Divinity Original Sin 2, qui avait donné des cadeaux de qualité, un jeu de qualité quand même assez incroyable, qui avait été financé en partie sur Kickstarter. Je pense à Pillars of Eternity aussi. Ouais. Mm-hmm. Donc, il y a quand même des histoires positives, là. C'est juste que, ben, des fois, quand on se ramasse avec des grosses compagnies qui utilisent Kickstarter en partie pour se subventionner, ben, on se ramasse avec des choses qui sont un petit peu décevantes. Comme le jeu aussi, Fallout 76. Ouais.
Le jeu lui-même,
ainsi que les Gugus autour, tu sais.
Mais c'est ça. Fait que là, on a déjà un portrait qui se dessine plus sur les utilisateurs de campagnes de sous-financement, au sens où, bien qu'il y ait des grandes compagnies ou des producteurs connus qui veulent se mêler de la partie, souvent, c'est pas ça qui va être le plus rentable. Même si tu as un bon réseau, même si la plupart des gens connaissent qui tu es, c'est des particuliers ou des petites entreprises qui ont souvent le plus gros reach. Je pense qu'Éric, tu parlais de producteurs de cinéma quand même assez connus qui essayaient de faire des campagnes.
Oui, ben on a vu plusieurs... l'exemple le plus célèbre, mais qu'ils ont réussi à ramasser leur argent, c'est le cas Veronica Mars, qui ont fait le long métrage avec une campagne de sociofinancement. Mais on prend des créateurs comme par exemple Ralph Bakshi, qui a fait Le Seigneur des Anneaux en dessin animé, qui a fait Fritz le Chat, ces trucs-là, qui avait essayé de monter une campagne là à plusieurs reprises. Il a fini par y réussir, mais bon, c'est un artiste quand même établi. Il fait de l'animation en rotoscopie, ça demande énormément de temps, c'est très très cher. Et donc, ça relativise en fait le quelquefois on parlait de fandom ou justement on parlait de visibilité des artistes qui vont sur ces plateformes-là, mais c'est pas toujours garanti succès, peu importe la qualité du projet ou du projet, donc Ralph Bakshi, c'était Last Days of Coney Island, qui a réussi à financer, je pense, après trois fois, à une hauteur de $175,000 environ américain. Donc encore une fois, c'est pas beaucoup de, il y a pas vraiment de profit qui se fait là. Par contre, ce qui est triste, c'est de voir quelquefois justement des studios, là, ça avait été le cas avec un projet, je vais retrouver le titre, il me revient pas là, mais d'adaptation de bande dessinée où que on avait une série de vraiment de producteurs de studios qui étaient allés sur Kickstarter pour financer cette chose là. Puis là, on se demande un petit peu justement l'utilité du Kickstarter, ou en fait le détournement qui est fait à des fins commerciales. Là, c'est comme si Apple débarquait sur Kickstarter pour faire financer le prochain iPhone 8 millions. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est sûr qu'ils vont le ramasser, leur argent. Là, on s'en attend, mais je veux dire, ça vient un peu désamorcer le petit côté DIY, donc do it yourself, mais aussi le côté alternatif que cette plateforme de financement-là voulait avoir lorsqu'ils ont été mise en place. Mm-hmm. Donc, de donner la chance à des créations qui, autrement, ne pourraient pas voir le jour dans un système traditionnel, institutionnel de passer. Donc, parle-là les gogos, là, mais on parle de produits culturels. Mais même les gogos, je veux dire, rendu là, Vaux Dragons ou Melus Kickstarter, là, mais je veux dire, ça participe un peu de la même logique.
Mais les gogos sont juste un incitatif à monter, à donner des montants plus grands, tu sais. À the end of the day, les gogos ne sont pas nécessairement ce qui est important quand on finance un projet Kickstarter. C'est juste des petits bonus pour te faire sentir spécial ou faire sentir que tu as participé. Je sais que dans Pillars of Eternity, le premier, les gens qui contribuaient au Kickstarter pouvaient écrire des choses dans des pierres tombales qui étaient insérées dans le jeu, tu sais. C'est pas nécessairement des gogos physiques, mais c'était juste un espèce de feeling que t'as contribué de manière significative à un produit culturel. Puis moi, j'ai trouvé que c'était peut-être une des plus belles façons d'intégrer tous ces gens-là qui ont participé, outre le fait de leur donner des t-shirts.
Ou d'écrire leur nom dans le générique à la fin.
Exactement. C'était de dire, il y a des gens qui avaient écrit des longs poèmes puis des trucs vraiment complexes, mais on des gens qui ont juste écrit genre « lol, what », tu sais. Tout le monde a comme un petit peu écrit son petit truc, mais il y avait une épitaphe sur des pierres tombales, puis ça fait vraiment une espèce de te contribuer à un projet, te participer un peu à quelque chose de ce projet-là, tu sais. Je trouvais que c'était très, très, très beau aussi comme manière d'inclure les gens qui ont fait des pledges ou qui ont donné de l'argent à ces projets-là, tu sais, comparativement à leur donner un t-shirt.
Mais n'empêche que, tu sais, on disait justement, il y a des géants de l'industrie, l'industrie quelle qu'elle soit, mais des personnes influentes dans l'industrie qui essaient souvent de s'accoutumer au milieu du Kickstarter qui réussissent pas, mais il y a quand même des compagnies qui ont commencé comme des petits trucs émergents puis qui sont devenus des géants de l'industrie, même si on s'écarte du Kickstarter ou de n'importe quelle plateforme de socio-financement. Puis on vient à se demander si ces gens-là ont vraiment leur place, c'est un peu, si sont pertinents, si c'est pas un peu hypocrite. Tu sais, je pense par exemple à Pillars of Eternity, que c'est quand même Obsidian Entertainment, qui est comme un des grands studios qui a parti les Fallout. Je pense surtout à Cool Mini or Not, qui est une compagnie de jeux de plateau qui a su tirer profit de Kickstarter et aujourd'hui fait des Kickstarter, mais je veux dire, leur Kickstarter, je sais pas si c'est dans le top 10 des projets les plus financés, mais tu sais, les Zombicides de ce monde, là, récemment, ils ont fait l'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo Bloodborne qui a eu des millions de dollars. Puis Cool Mini or Not, aujourd'hui, si je ne m'abuse, je crois que c'est le deuxième conglomérat le plus important en termes de jeu de plateau, le premier étant Asmodée. Mais je veux dire, c'est quoi, je m'en vais pas dire on devrait empêcher ces gens-là d'aller sur Kickstarter, mais je trouve ça un peu, je trouve que ces gens-là font de l'ombre à d'autres projets émergents qui mériteraient peut-être d'être découverts. Je sais que le but de l'émission aujourd'hui n'est pas de justement dire pour ou contre Kickstarter, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, tu sais, il y a une désinstitutionnalisation, excuse-moi, j'ai eu de la misère à dire ce mot-là, mais en même temps, on crée une nouvelle institution qui va juste amener d'autres problèmes ultimement.
Mais je pense que c'est super intéressant ce que tu amènes.
Je pense que tu disais, on va pas faire une émission sur pour ou contre Kickstarter, mais je pense qu'à un certain point, on n'a pas le choix aussi de se positionner par rapport, pas nécessairement pour ou pas ou contre, mais de mettre de l'avant ces espèces de points morts-là ou ces défauts-là de ce genre de plateforme-là, puis de levée de fonds-là, parce qu'en effet, on se ramasse avec des compagnies comme Obsidian, qui ont l'air d'être une petite compagnie qui a besoin d'aide pour faire le jeu qu'ils veulent faire, mais dans le fond, tu sais, c'est ça, ils ont comme, ils ont pas besoin d'argent.
Obsidian, c'est un studio presque double A, ce n'est pas un triple A, mais je veux dire,
ils ont créé Fallout. Ça révèle aussi la place que ça a, justement, dans une espèce d'écosystème politique capitaliste, là. Donc,
absolument.
Donc, c'est important de se poser cette question-là pour ou contre Kickstarter, mais c'est pas nécessairement pour dire, ah, ça devrait pas avoir sa place, mais ça révèle qu'est-ce que signifient les plateformes de socio-financement à la base, d'où ça vient, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça après. Parce qu'au final, le socio-financement, c'est une version plus moderne de les levées de fonds, puis les soupers spaghettis.
Exact.
C'est la version 2.0 de ce genre de levée de fonds qui se basait avant et d'abord et avant tout dans une communauté. C'était les gens proches de nous qui donnaient de l'argent pour nos projets, c'était les gens proches de nous qui donnaient de l'argent quand on était dans le besoin, c'est à eux qu'on vendait les biscuits pour aller faire un voyage d'école.
Exactement, c'est ça que je m'en allais dire, que quand j'ai fait mon voyage pour aller en Espagne en cinquième année, j'en ai vendu en tabarouette des palettes de chocolat, mais c'est parce que moi j'avais une mère qui travaillait dans une grosse entreprise qui emmenait des boîtes puis qui les vendait, alors que j'avais des amis dont les parents travaillaient à la maison, puis eux devait faire du porte-à-porte, puis en vendait tellement moins que moi. Fait qu'il y a toute cette espèce d'idée-là de « it's who you know », c'est qui ton fanbase, c'est qui les gens que... Est-ce que t'as des bonnes personnes de marketing qui vont promouvoir ces trucs-là sur les réseaux sociaux?
Maintenant, il y a des compagnies qui sont engagées pour ça. Aujourd'hui, il y a Christopher Chansey, qui est un habitué de Pas-Penser, qui était supposé être parmi nous, et il pouvait pas être là parce qu'il participait justement au lancement d'une campagne de
sous-financement d'un jeu vidéo d'un studio de Montréal.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Okay. Suite à Christopher Chansey en particulier, suite au succès du Kickstarter de Steamboat Billy, leur jeu, ils ont aidé plein d'autres studios indie à partir des campagnes de Kickstarter, parce que c'est, encore une fois, qui tu connais, qui en a déjà fait, les gens se spécialisent là-dedans. Fait qu'il y a toute cette idée-là de genre, ah oui, c'est beau, la communauté aide à faire parvenir un projet, mais il y a aussi toute cette espèce d'idée perverse-là de, ben, comment on va utiliser les choses à notre avantage, puis même si ton projet est excellent, si tu connais pas les bonnes personnes, ça se peut qu'il y ait jamais personne qui va t'aider à le faire, à le réaliser, tu sais. Ce qui est un peu triste, mais en même temps, c'est ça l'espèce de côté sombre du socio-financement, tu sais.
C'est l'autre tranchant de la communauté, parce que oui, ça part d'un bon fond, puis tout ce que, l'exemple que tu donnais avec Pillars of Eternity, puis les épitaphes, c'est une belle façon de promouvoir justement ce sentiment de communauté-là qui est super important dans le milieu culturel populaire, aujourd'hui surtout, que les fandoms sont tissés serrés, puis Puis le Kickstarter de Critical Role aurait jamais marché sans sa communauté. C'est complètement absurde, là. Ils demandaient 750 000 $ initialement. Puis
ils ont eu 11 millions, tu sais. Puis je pense que c'est drôle parce que juste avant de venir, je regardais un meme sur Internet qui disait justement à quel point, tu sais, moi, je regarde Critical Role depuis le troisième épisode en 2015. Puis je me souviens à quel point les acteurs étaient touché de recevoir une pizza de la part des fans sur Twitch, tu sais, puis comme ils pleuraient presque, puis on parlait dans le métro de quand ils ont commencé à vendre des t-shirts, puis
c'est comme après au
dixième,
neuvième épisode, quelque chose comme ça.
Puis là ils disent bon ben on a des t-shirts, puis 15 minutes plus tard ils sont comme bon ben on a plus de t-shirt, puis il y a un 10 minutes où ils sont comme ben voyons donc ça se peut pas, on avait commandé plus de t-shirts qu'on pensait vendre, tu sais. Fait qu'on part de ça à OK, on sait que c'est beaucoup d'argent, mais on vous demande 750 000 pour faire un épisode, puis on va arriver juste, puis on fera pas de profit. Puis le monde sont comme ah, voilà comme 5 millions de dollars
en 24 heures.
En 24 heures. Puis il y a tout eu ce shift là de OK, les gens veulent vraiment voir ça, mais à chaque fois qu'il atteignait un tier, il faisait des live streams, puis il était comme au bord des larmes en train de dire « Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, tu sais. »
Mais quelque chose de très important que Matthew Mercer, qui anime le stream et la campagne de D&D, disait souvent, tout au long de la campagne de sous-financement, c'est « Oui, vous nous donnez de l'argent. Nous, oui, on est une communauté, mais il y a beaucoup de projets, des petits projets qui mérite d'être soutenu. Fait qu'au lieu de me donner encore de l'argent, vous pouvez aussi investir là-dedans. Puis il y avait tout ce sentiment-là que la communauté, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, Alex, mais la communauté du tabletop, en général, s'entraide énormément puis essaie beaucoup de se soulever les uns les autres.
Ben, moi, en tout cas, je suis d'accord.
Mais celle de Donjons et Dragons.
De Donjons et Dragons, à tout le moins. Puis Matthew Mercer, encore une fois, tu sais, on se parlait un petit peu de l'émission avant, puis on disait à quel point une des bonnes raisons pour lesquelles on donne à Critical Role, puis qu'on aime Critical Role, c'est que c'est des bonnes personnes. Puis on a envie de leur donner de l'argent pour qu'eux continuent à faire ce qu'ils aiment et qu'on aime parce qu'ils aiment ça, tu sais. Puis ils ont toujours eu cette idée-là de, tu sais, ils ont choisi des charités auxquelles ils veulent que les gens donnent, puis ils ont toujours essayé de redonner de l'argent aux autres, tu sais. Fait que je pense que ça participe de ça, mais, tu sais, tous les projets, par exemple, Wormwood Gaming, qui est soutenu par Critical Role aussi, c'est un projet qui est parti parce que, ben, ils ont envoyé quelque chose à Critical Role, puis là, ils en ont parlé, puis c'est rendu immense, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de projets comme ça où les gens font exprès de s'entraider ensemble, puis la communauté, quand tu leur dis quelque chose, sont comme « Sure, on va aider les autres », tu sais. Fait que je pense que c'est naturel, à tout le moins au sein de la communauté de Donjons et Dragons.
Ouais, mais ce fandom-là en particulier.
En particulier, oui. Mais même à ça, je te dirais que les autres streams de Donjons et Dragons aussi, là, tu sais, il y en a plusieurs, là, Adventure Zone, ouais. Mm-hmm. Ouais. C'est des gens qui encouragent énormément leurs fans à aller écouter d'autres streams, à encourager les autres, à encourager des applications, des applications de miniatures ou des trucs comme ça. Il y a aussi beaucoup de trucs avec des maps puis des choses qui vont participer aussi à leur propre campagne de Donjons et Dragons, tu sais.
Encourager des artistes du milieu.
Exactement, tu sais. Fait que je pense qu'il y a toute cette idée-là aussi autour de ça. Peut-être que ça vient du fait que c'est un jeu de communauté aussi, là.
C'est ça. On peut essayer de voir s'il y a justement pas des similitudes, mais un peu la forme de qu'est-ce qu'on essaie de vendre, les gens qui utilisent un peu ce type de jeu-là. Si on pense à Donjons et Dragons, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'entraide, on crée une histoire ensemble. Est-ce qu'on peut remarquer? Ouais.
Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, c'était l'idée justement qu'on a l'impression que c'est des bonnes personnes, donc on veut les aider. Mm-hmm. C'est toute cette question-là qui est soulevée de l'authenticité de ce qu'on voit en ligne, de ce qu'on met en ligne, puis rentre dans une perspective de communication beaucoup plus grande qui est celle des réseaux sociaux numériques, puis de comment maintenant on redéfinit les frontières de la communauté, de l'intimité, de l'intérêt. Ouais. Donc ça éclate un petit peu ces barrières-là, parce que, comme tu le disais, peut-être qu'on aurait eu le même projet, mais avec des gens totalement antipathiques. Ils ne seraient pas levés du tout. Puis des fois aussi, il y a cette autre chose-là qu'on voit en marketing depuis très longtemps, qu'on voit dans les industries, c'est-à-dire que plus il y a d'argent qui rentre, plus il y a de gens qui achètent, plus qu'on se dit ça doit être intéressant, plus qu'on embarque. Tu sais, le genre d'effet d'entraînement et de roulement, donc ils sont rendus à des millions d'argent, mais là tout d'un coup il y a des gens qui font comme ça m'intéressait pas, mais là ça marche, puis moi aussi je veux faire partie, puis on rajoute et ça grossit, ça devient une bébite difficile à contenir, tu sais, qui est une bonne chose pour eux, mais qui encore une fois parle beaucoup en fait de comment le monde se redéfinit à l'ère du numérique, et surtout dans les 10-15 dernières années, tu sais. Fait que ça, je trouve ça que c'est quand même assez assez intéressant là, ce point-là.
Mais tu sais, moi je crois que une des nombreuses raisons que il y a certaines campagne Kickstarter, en fait campagne de sous-financement qui fonctionne et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, c'est tout ce qui a rapport à la question de la vision de la plateforme en tant que telle, la compréhension autant du public que des compagnies. Il y a beaucoup de gens encore qui considèrent que, ben on en parlait au début de l'émission, qui considèrent que qui ont de la misère à attendre après quelque chose.
Certaines personnes, moi,
dont Roxane, non, mais certaines personnes qui ont un peu de la difficulté avec l'idée de payer pour quelque chose qu'ils vont recevoir dans, je sais pas, 2 ans, peut-être jamais pour certaines histoires
d'horreur.
Ben c'est
ça, tu sais, j'avais un ami qui achetait des trucs de Divinity Original Sin qui a pledgé comme 300-500 piastres 3 ans d'avance, puis j'étais comme t'es bien cool de faire ça, tu participes à quelque chose, mais je serais jamais capable de payer 500 piastres pour attendre qu'un jeu sorte pendant 3 ans, tu sais.
C'est ça. Puis tu sais, il y a des compagnies aussi qui voient ça comme une boutique, tu sais, genre ben j'ai un jeu, si tu veux l'acheter, finance là, puis je te donne des gogos. Puis c'est un peu particulier parce qu'il y a un éditeur, justement, tu sais, on parlait de jeux de rôle, puis c'est pour ça que j'ai comme soupiré entre les dents tantôt, mais moi je pense que une des raisons, en fait, ce n'est pas la communauté du jeu de plateau en tant que tel qui est solidaire. Je pense que c'est tout ce qui est communauté autour des streamers de Donjons Dragons, donc Acquisitions, Grey Force, j'en passe là, mais
il y en a tellement maintenant que tu peux plus les nommer.
C'est surtout que le public s'attache à des acteurs qui sont des personnes,
des personnalités,
qui sont des personnalités qui jouent dans un monde imaginaire, fait qu'il y a comme un double attachement à ces choses-là.
Exact.
Puis les campagnes de jeux de rôle, ça fonctionne correct là, sur Kickstarter, je veux dire, ça fonctionne. Ils vont demander 5 000 $, puis ils vont peut-être avoir 6 500, ça va fonctionner, mais c'est pas le truc qui fonctionne le plus. Il y a vraiment... ils vendent du rêve, là, ces gens-là, les streamers.
Aussi,
en fait, comme n'importe... comme beaucoup de campagnes de sous-financement, mais surtout les streamers de Donjons Dragons.
Oui, mais il y a aussi... Puis on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais il y a aussi, avec les streamers, la plupart des choses qu'ils font proviennent du socio-financement lui-même, c'est-à-dire Critical Role, en ce moment, c'est dissocié de Geek & Sundry. Ils payent... les gens payent leur membership, leur... comment t'appelles ça? Membership en français, mais...
Un abonnement
mensuel de 5
Sur Twitch.
Sur Twitch, à eux. Puis il y a beaucoup d'autres plateformes qui font des trucs comme ça. Je pense à Patreon aussi, qui fonctionne pour beaucoup d'autres streams. Les gens vont donner de l'argent à chaque mois à un artiste ou à un groupe de gens qui font des streams de Donjons et Dragons. Fait que je pense que foncièrement, ce genre de trucs-là fonctionne bien parce qu'il y a d'autres plateformes de sociofinancement qui sont pas nécessairement pour des projets en particulier, mais pour une idée, pour un groupe qui fonctionne en arrière puis qui les aide aussi à démarrer puis à partir un peu plus, parce que s'il suffit juste à des one-time shots sur Kickstarter de 6 000 $ de la shot, ben c'est pas très très viable à long terme non plus.
Ben c'est sûr que qu'est-ce que ça souligne aussi, c'est aussi le type de projet ou de gens qui vont sur ces plateformes-là qui décident soit de vouloir faire une carrière, donc plusieurs projets subséquents, ou quelquefois qu'ils vont y aller pour un projet spécifique, puis c'est ça. Donc encore une fois, il y a deux niveaux de mise en marché et de vente de projets, donc comme quelqu'un qui décide de faire, je sais pas moi, un court-métrage, puis c'est tout, versus la compagnie qui, elle, décide de faire une série de jeux de rôle en format livre, puis qui veulent en sortir un tous les 2 ans. C'est un autre monde totalement, puis c'est une autre formule, une façon de penser le socio-financement. Puis c'est là que d'autres plateformes comme Patreon ou tout ça sont arrivées, donc il y a des gens qui, des artistes comme ça, grâce à ça, peuvent créer de façon quotidienne, donc deviennent une sorte de en fait, ça devient une business, ça devient un travail, ça devient une entreprise qui n'est pas juste financer un projet, un objet, financer une invention, financer, mais financer autre chose.
C'est payer un salaire, là.
C'est exactement. Il y a aussi des applications comme Ko-fi. Ouais. C'est comme tu payes un café à ton artiste préféré. Donc, tu peux, c'est pas nécessairement des abonnements mensuels, là.
Ils sont
pas vraiment
obligés de boire tous les cafés.
Ils sont pas obligés de boire tous les cafés, mais c'est dommage. L'équivalent d'un café. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mis de l'avant avec les artistes individuels, si on veut, là, qui n'ont pas des gros projets en tête.
Les webcomics utilisent.
Les webcomics, les YouTubers aussi. Ben, les YouTubers un petit peu moins connus, naturellement, qui ne font pas autant de revenus de pub sur YouTube. Je pense à beaucoup de théoristes de Game of Thrones qui font beaucoup d'argent avec les vidéos spéciaux, justement, pour les patrons sur Patreon. Fait que c'est quelque chose qui fonctionne à plusieurs niveaux. Là, je suis des artistes visuels, des artistes de webcomics, des gens sur YouTube. Il y a des cinéastes aussi qui utilisent Patreon. C'est vraiment beaucoup de monde, surtout dans la sphère culturelle, je pense. Là, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde en dehors des produits culturels qui utilisent Patreon pour se financer. Tout le monde n'a pas l'assure. Fait que
ben écoute, on devrait peut-être faire des Patreon pour genre la recherche universitaire. Là. Ça serait pas mauvais. Hey, peut-être que je serais resté finalement.
T'imagines si nos bourses pouvaient être payées par des Patreon?
Là, on adresse un problème qui est comme un peu pas adressé depuis le début, mais c'est ça l'affaire. C'est sûr que les campagnes de financement, on parle beaucoup d'encourager les gens qu'on aime, les gens qu'on trouve sympathiques, de participer à un projet de communauté. Mais c'est comme, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais reste que c'est un système foncièrement capitaliste.
Puis axé demain sur le divertissement.
Oui, aussi.
Puis, je veux dire, même si la montre intelligente est cool, c'est une montre intelligente.
Oui, mais il y a aussi le fait que c'est beaucoup des œuvres du domaine culturel, qui est un domaine habituellement excessivement sous-financé. Tu sais, je voudrais pas non plus vivre dans une société où ma thèse est financée par des gens, des monsieur, madame, tout le monde.
Je veux dire, ultimement, notre thèse est financée par monsieur, madame, tout le monde, au niveau gouvernemental.
Par un système d'impôts et de taxes.
Oui, exactement.
Ben, il pourrait rajouter des notes de bas de page financées par les gens qui diraient, je sais pas moi, justement, là, bonjour, je suis heureux d'avoir écrit trois lettres. Puis là, tu aurais
cinq pages à la fin piastres, de ta thèse. Avec tous les noms des gens qui ont donné.
Ah oui, c'est une bonne idée. Je vais juste aller partir un Patreon puis dire aux gens que je vais les mettre en remerciement de mon mémoire.
Mais tu as tout à fait raison. Encore une fois, ça soulève d'autres types de un, ça souligne le désengagement, le désinvestissement à la fois d'industries privées qui finançaient des formes artistiques, mais aussi du public, donc gouvernemental. Et ça fait rentrer la création dans cette logique qui, à la base, on dit on va encourager, ça va venir d'avoir une diversité, mais qui repose en bout de ligne sur l'offre et la demande. Donc, exactement. Si les projets sont achetés parce que les gens pensent que c'est bon, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours bon. Donc, qu'est-ce qui, dans le futur, va être financé? D'autant plus qu'on voit que tous les gouvernements vont mettre moins d'argent ou essayer, en tout cas, ont des problèmes avec ça. Puis je ne pense pas que c'est d'un matin qu'ils vont réinvestir massivement.
Le socio-financement est une raison pour eux de se désengager.
Ben oui,
donc, c'est un cercle vicieux.
Donc, c'est à voir comment ça va se transformer. Est-ce que le risque d'aller vers ce côté-là va arriver? Mais déjà, on voit certaines choses. On pense, par exemple, au financement des web-séries au Canada où on demande aux créateurs de faire un épisode puis après ça, de faire un genre de concours sur YouTube, voir qui a le plus de likes pour voir si ça va peut-être ça influence comment on va financer les choses. Donc, si on a déjà, je sais pas moi, 100 personnes qui achètent ton DVD futur ou je sais pas moi, ta version numérique de ta web série, ben, c'est déjà plus intéressant pour quelqu'un qui prend moins de risques à financer la chose ou même des fois à pas la financer du tout. Mais on rentre dans cette logique-là qui est très justement offre-demande, très capitaliste et qui s'éloigne pas tant que ça finalement d'un Avengers produit par un gros studio pour des grandes salles.
Exactement, ça devient une espèce de baromètre d'investissement. Ouais. Tu sais, c'est comme tu disais, ben on évalue le risque avec ce genre de campagne là, tu sais, puis je pense que c'est quand même, je suis pas au courant des trucs d'investisseurs dans le background, mais je suis pas mal certaine qu'il y a des investisseurs, des gens qui sont des investisseurs professionnels qui peuvent juste garder un œil sur ce qui se passe sur Kickstarter, puis dire ah ben ça c'est populaire, fait que je vais investir de l'argent dedans ou je vais essayer d'acheter le projet ou tu sais.
Ben, c'est le cas, par exemple, d'Iron Sky. On en parlait un petit peu avant d'entrer en onde, mais c'est un film de 2012. Puis, en fait, le créateur a décidé, à la base, de faire un Kickstarter parce qu'il trouvait pas les moyens pour faire le film. Bon, c'est un film vraiment très, très, très fanbase, par exemple Fantasia, là, c'est un cinéma d'horreur avec des nazis, puis des dinosaures, puis name it, là, dans le, tu voyais le genre un peu éclaté. Oh,
ouais.
Puis il a réussi à lever quand même rapidement un bon montant d'argent, puis automatiquement des compagnies sont venues qu'il reste du financement et ont repris le projet. Et puis l'année, il y a deux ans, ils ont fait un Kickstarter pour le deuxième. Mais le film, le premier, c'était déjà vendu.
Ouais,
ils ont déjà fait de l'argent en salle. On savait déjà que ça fonctionnerait pas mal, que la fanbase était là. Donc, on refait un Kickstarter. Pourquoi? Pour qui? Pour avoir un plus gros budget, pour moins investir dans le projet.
Ouais.
Puis, dans le deuxième cas, en plus, le gouvernement finlandais a investi. Donc, tu sais, on est dans un genre de drôle de logique. Est-ce que le deuxième Iron Sky avait besoin de passer par une plateforme de sociofinancement?
Mais tu sais, des fois, il y a peut-être l'idée, tu sais... Par exemple, dans le cas de Critical Role, le budget initial qu'ils demandaient était, en sachant que nous, on va investir la moitié de notre argent, on a besoin de tel montant pour être capable de faire une qualité de base, tu sais, pour avoir quelque chose qui se tient. Mm-hmm. Fait que peut-être qu'en demandant un sociofinancement, même si tu as déjà un budget établi, tu peux aller ajouter de la qualité, ajouter des effets spéciaux, mm-hmm. Payer des salaires plus grands à tes acteurs, tes artistes aussi, parce que souvent, t'sais, dans le cas du cinéma, les acteurs qui participent, par exemple, à ton court-métrage, l'argent que tu leur donnes n'est pas exactement élevé. Fait que, tu sais, des fois, je pense que ça peut peut-être être une bonne chose d'aussi, même si tu as du financement, faire une partie de sociofinancement pour aller chercher une qualité supérieure ou vraiment réaliser la vision que tu as en tant que créateur, créatrice. Là, c'est sûr qu'on rentre dans Roxane et son idéalisme, là.
Mais en même temps, ça soulève... ça ramène ce que tu disais au début par rapport à justement c'est les bonnes personnes, l'authenticité, c'est aussi la question de la transparence.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que toi tu mets, qu'est-ce que t'amènes vraiment, qu'est-ce que tu cherches, puis pourquoi, puis où tu vas le mettre. Puis des fois c'est pas toujours clair. Je trouve que par exemple en musique, on le voit souvent là, tu vois le graphique avec ça coûte 500 pour faire le mastering, 3000 pour presser les disques, puis ça coûte ça, puis nous autres on a, tu sais, tu le vois bien, mais dans d'autres cas c'est un peu nébuleux, tu sais pas trop exactement. Mais je pense que cette idée là justement d'être transparent sur ces plateformes de sous-financement peut avoir une influence, puis justement peut-être éviter ou permettre d'éviter ces petits accros-là.
Ben c'est des accros, mais je pense que moi je le vois presque comme de l'hypocrisie, à rendu là, tu sais, quand t'as un investisseur privé qui te donne le trois quarts de l'argent, puis qui est comme, essaye de voir si tu peux en avoir plus, tu sais. C'est peut-être de l'hypocrisie, puis c'est là où ça vient justement jouer sur la sensibilité des gens, puis leur volonté de participer à un projet communautaire, parce que c'est presque, là c'est un gros mot que je vais utiliser, mais c'est presque une prédatoriale comme manière d'aller chercher, de jouer avec les feelings des gens, tu sais.
C'est une façon de faire de la publicité plus que de ramasser de l'argent en tant que tel. Là. C'est une façon d'avoir plus de visibilité, de rendre ça viral.
Ça ramène cette idée de d'entreprise toujours un peu capitaliste ou de système un peu capitaliste, même dans le socio-financement, qui est très propre à cette culture d'entrepreneuriat qu'on nous met de l'avant depuis une dizaine d'années, qu'on pousse, parce que justement, tantôt on parlait du cooler, c'est un peu ça, là, j'ai une idée de fabriquer un cooler avec plein de bébelles dedans, ça va se vendre. Puis,
des speakers, puis des un blender, c'est de ça qu'on a besoin.
Mais tu sais, quand même, je blaguais tantôt en disant va au dragon, mais c'est un peu le même principe. Il arrive avec son projet, puis moi je veux révolutionner le monde du cooler avec ce cooler qui joue la musique et qui peut faire des smoothies, tu sais.
Pas le rêve, ça, Eric.
Ah, c'est le rêve, ça, c'est clair. Enfin, j'aurais aimé mieux un jukebox, par contre, mais bon, ça, je peux pas tout avoir.
Le prochain, va falloir qu'on les appelle.
Elle aurait été grosse un peu.
C'est un gros cooler.
En fait, un frigo portable, genre.
Ni plus ni moins.
Mais ça reste dans une très entrepreneuriale, puis c'est et ça rentre aussi dans cette idée que tout est possible, parce qu'on entend les success stories depuis tout à l'heure. C'est très American Dream, là. Quelqu'un va arriver puis il ramasse 11 millions, 12 millions, 14 millions, 15 millions. Des fois, tout d'un coup, il se bâtit une carrière parce qu'il est passé par le socio-financement, puis on l'a remarqué. Mais encore là, est-ce que ça devient comme un peu une plateforme dans certains cas qui vend du rêve, mais qui n'est pas toujours, en fait, qui ne devrait pas peut-être pas vendre ce rêve de ce type-là. Mm-hmm. On y prête peut-être, on projette peut-être beaucoup de choses sur elle. C'est ça que je veux dire.
Mais aussi, juste le principe d'une campagne de sous-financement, c'est vendre du rêve, c'est vendre des attentes, c'est mobiliser toutes ces attentes-là.
C'est vendre un produit qui n'existe pas encore.
Exactement. Là, c'est faire, ah oui, on va faire quelque chose, ça va être vraiment cool. Donnez-nous de l'argent, puis vous allez voir, vous allez l'avoir. Mais il y a beaucoup de campagnes qui ont échoué, puis que les gens n'ont jamais reçu. Ouais.
Puis même à un niveau un peu plus abstrait, on pourrait dire, il y a beaucoup de... T'sais, on parlait de à quel point la communauté du tabletop, c'est une belle communauté, mais c'est pas le cas. Je m'excuse, je suis désolé, il faut que j'en parle.
Toi, là!
Non, mais moi, c'est parce que je suis beaucoup tout ce qui est campagne de jeux de plateau. Puis, mais en fait, je pense dans n'importe quelle campagne, ça doit être la même chose. Les gens croient qu'ils sont des investisseurs et que tout leur est dû. C'est souvent problématique. T'sais, faut qu'on l'a... Je pense qu'ils ont rajouté ça dans leur politique Kickstarter récemment, mais tu sais, qui rappelle que Kickstarter n'est pas une boutique, Kickstarter n'est pas, vous n'investissez pas dans le projet, vous mais ne faites que les aider.
Les gouvernements passent des lois aussi maintenant que les campagnes de sous-financement, ce n'est pas une façon d'investir, vous n'avez pas de redevances par rapport à ça. Donc, il y a même des lois qui sont passées.
Mais je pense qu'il faut le faire, parce que sinon...
Définitivement.
Les gens deviennent tellement...
Bon, 1% des revenus du jeu, là.
Ben, c'est ça, mais il y a quelque chose comme un... Puis, encore une fois, j'ai juste le mot en anglais, je m'excuse, mon anglais aujourd'hui, mais les gens deviennent « entitled », pensent qu'ils ont droit à des choses ou qu'ils ont quelque chose à dire sur le produit parce qu'ils ont investi une centaine de dollars dans quelque chose. Puis peut-être que le mot vient aussi du... la problématique vient du mot qu'on emploie, tu sais. On dit, OK, ben on a investi 100 $ fait que les gens se disent, ouais, mais je suis un investisseur, j'ai le droit de parole sur le produit final.
Moi, mais vous êtes 21 000 qui avez investi.
Exact.
Je pense qu'on peut pas écouter tout le monde.
Puis 21 000, tu sais, il y a des projets qui ont beaucoup plus de gens que ça. Puis, ben à un moment donné, comment est-ce qu'on peut grader? Est-ce que la personne qui a, elle, acheté le 5 000 $ a plus de droits sur le contenu que la personne qui a donné un 10 $ Fait qu'il y a toute cette idée-là.
On revient encore à toutes ces affaires d'inégalité sociale-là qui sont vraiment inhérentes aux campagnes de sous-financement.
Absolument.
Mais oui.
Parce qu'une autre des raisons pour laquelle j'ai jamais donné à une campagne de sous-financement, c'est parce qu'il faut que je paye mon loyer, tu sais. Puis à un moment donné, ben, le 10$ extra que je mettrais dans une campagne de sous-financement, ben, peut-être que je vais en avoir besoin parce que je vais avoir oublié mon lunch puis il faut que je m'achète quelque chose à la cafétéria. Fait qu'il y a toujours cette espèce d'idée-là que of course, si je faisais 100 000 par année, probablement que j'aurais encouragé le Kickstarter de Critical Role. Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est fondamental à ma vie, Critical Role, maintenant. Fait que peut-être que je l'aurais fait si j'avais eu 180 $US de libre dans mon budget, tu sais. Mais encore là, c'est drôle parce qu'il y a toute cette idée-là de, bon, ben moi, j'ai pas les moyens de financer ces trucs-là. Puis là, je me sens mal. Je suis comme, est-ce que je suis une mauvaise membre de la communauté parce que moi, j'ai pas donné d'argent. Puis c'est sûr que là, dans le cas de Critical Role en particulier, ils ont fait attention de dire, vous avez pas besoin de nous donner d'argent. Comme,
parce qu'ils en ont assez.
Ils en ont assez, tu sais. Mais dans d'autres cas où, tu sais, j'embarque dans un train, comme par exemple avec Pillars of Eternity, 2 ans plus tard, je suis comme, ah, OK, mais tu sais, j'aurais peut-être dû leur donner une chance. Fait qu'il y a toute cette idée-là de comme, si t'as pas d'argent extra à donner, il y a quand même, je me sens mal.
Ouais, mais je pense que plus, ouais. Tu voulais dire quelque chose?
Non, mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça déborde sur l'utilisation du sous-financement qui est fait hors production culturelle, parce qu'on voit de plus en plus de sous-financement pour des gens qui ont besoin de je sais pas moi, de traitement de santé, parce que leur maison a brûlé, parce que whatever, tu sais. Puis là, justement, jouer sur... Les gens font pas à mal, mais ça témoigne encore une fois d'un désinvestissement massif des communautés propres, des instances gouvernementales, puis ensuite de ça, ça vient titiller notre côté justement de culpabilité, puis ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres excès qui sont des cas de fraude, par exemple, comme il y a eu récemment là, de gens qui voulaient défendre je sais plus trop qui là pour des soins de santé, puis finalement on se rend compte que c'était pas vrai du tout, puis ils ont juste pris l'argent, ils sont partis.
Il y avait des personnes quand même bien nantis qui avaient fait une campagne de sous-financement pour aider quelqu'un qui était dans la rue. Je pense qu'ils ont ramassé 40 000 $ puis ils sont juste partis avec le cash.
Il y avait aussi, quand j'ai écouté Dr. Phil récemment, puis il y avait une dame qui, pendant les grands feux en Californie, avait parti, je pense que c'était un Indiegogo pour récolter de l'argent pour les pompiers, puis récolter aussi plein de matériel, puis ils se sont rendus compte que, dans le fond, ben elle le gardait pour elle. Fait qu'il y a eu tout ce truc-là. Puis en plus, il y a quelque chose comme... tu sais, récemment, il y a eu un accident sur l'autoroute 13, puis il y a une femme qui a perdu la vie, le monsieur se retrouvait seul avec son bébé qui est comme né pendant, comme en urgence pendant la mort de la dame. Bref, une histoire super dramatique. Puis ils font un Kickstarter avec ça. Puis, tu sais, quand ton ami publie ça sur Facebook ou si t'es quelqu'un qui connaît la personne, il y a toute cette idée-là de « Oh mon Dieu, mais faut que j'aide. Ouais. » Tu sais, tu te sens obligé de participer à ça. Fait qu'il y a toute cette idée-là de jouer sur les feelings de tes amis que je trouve un petit peu bizarre.
Mais il y a quelque chose de... C'est sûr qu'on parle des histoires de fraude, mais il y a aussi des gens, surtout aux États-Unis, qui ont énormément d'histoires d'horreur par rapport à ça, parce qu'on sait que le système de santé américain n'est pas l'affaire la plus notre au monde. Fait qu'il y a une quantité phénoménale, comme c'est dégueulasse à quel point il y en a de campagnes de sous-financement pour les gens qui veulent payer leurs frais médicaux ou leur opération ou leur insuline pour leur diabète de type 1. Ça, c'est complètement absurde. Il y a un homme justement qui est mort récemment là, par rapport, justement, il était en deux couverture d'assurance, puis il n'a pas pu payer son insuline pour ce mois-là. Il n'est pas arrivé à son objectif.
Ah, l'industrie pharmaceutique.
Oh, ça, c'est autre,
ouais, c'est ça.
Mais dans ces cas-là, on est de retour un peu à cette idée de communauté, comme tu disais, des soupes spaghettis pour aider Roger parce qu'il a le cancer. Tu sais, il y a quelque chose de très noble, mais tu as son pendant aussi très entitled, très. Très contemporain de gens, par exemple, qui veulent se faire payer un voyage, là, puis qui demandent à leur ami puis à la communauté parce qu'ils veulent faire le tour du monde. Puis là, je dis, pourquoi on te donnerait de l'argent par un sociofinancement pour faire ça? Il y a des drôles, justement, de projets qui sont proposés puis qui révèlent beaucoup, si je trouve, par-delà des investissements, par-delà le soutien de la communauté, mais qui témoignent beaucoup aussi d'une culture... très centré, très socio-numérique, très qui repose beaucoup sur le 5 minutes de gloire, on pense aux Instagrammeurs, tout ça, mais quand même, à 19 ans, pourquoi tu irais faire un sous-financement pour payer ton voyage autour du monde? Pourquoi on donnerait de l'argent pour ça?
Va à l'école,
fais quelque chose, paye-toi là, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais c'est fascinant, tous ces projets qui sont mis de l'avant là par des gens qui on se demande qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête, puis quelquefois ça fonctionne, ce qui est encore plus surprenant. Puis là, on peut se poser toute une série d'autres questions au niveau de comment on met en scène sa propre personne à travers ces projets-là de vente. Là,
t'sais, on n'arrête pas de faire le parallèle entre le souper spaghetti puis le socio-financement, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut garder en tête, c'est que c'est comme si ton souper spaghetti était accessible à tout le monde dans le monde. Il n'y a pas ce genre de possibilité-là avec le souper spaghetti.
Faut que le souper spaghetti soit viral pour que tout le monde y aille.
Tu sais, à un moment donné...
Personne ne sait que ton
peut-être pas juste été en Espagne avec des tablettes de chocolat si tu les avais vendues en ligne.
Exact. Tu sais, peut-être que j'aurais fait le tour du monde avec mes palettes de chocolat.
Pas du tout. Peut-être que tu aurais tombé dans l'oubli.
Peut-être que... Ben, probablement que j'aurais fini par tomber dans l'oubli parce que je suis pas vraiment une bonne vendeuse. Fait que je pense pas que j'aurais réussi à...
Mais t'étais cute quand t'avais 5 ans, là, mais...
J'avais pas 5 ans, j'en avais 17, là. J'étais en secondaire 5. J'étais vraiment pas si cute que ça.
Cinquième année, tantôt.
Ah, ça se peut.
C'est bien mêlé d'envoyer des enfants de 8 ans en Espagne.
C'était un peu bizarre. C'était un peu hardcore.
Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, je pense qu'il faut garder en tête que dans un espèce de climat où on a accès à ce genre de truc-là, mon oncle Roger qui fait son souper spaghetti, ben s'il avait pu le dire à littéralement tout le monde dans le monde, ben il aurait probablement eu beaucoup plus de monde qui aurait voulu contribuer. Puis ça donne des idées à ma tante Claudette qui dit « Moi aussi, j'aimerais ça que le monde me donne plein d'argent. » Elle a cette voix-là, ma tante Claudette.
C'est sûr.
Mais ouais, c'est ça. Mais veux pas, c'est aussi... C'est comme récemment, j'ai un ami qui a un cancer, puis sa mère a fait une campagne de sous-financement justement parce qu'elle a pas de revenus, puis il fallait qu'elle s'occupe de son fils temps plein. Fait que elle a fait un Indiegogo pour que les gens ramassent de l'argent, mais au final, c'était juste... la famille proche qui a donné parce qu'on le connaissait. C'était pas nécessairement un truc qui s'adressait au monde. Fait que là, tu sais, il y a aussi la communauté proche qui reste. Mais veux pas, ça témoigne des investissements des gouvernements à aider ces gens-là qui sont dans le besoin. Puis par rapport à ça, je veux juste, avant que l'émission finisse, si la question de la santé et du socio-financement vous intéresse, je lisais un article avant de venir ici sur Bitch Media, qui est un site super intéressant, un blog, qui s'appelle Please Save Me When Crowdfunding is the Difference Between Living and Dying. Mm-hmm. Fait que si vous voulez en lire plus là-dessus, je vous renvoie à ça. Donc, mais veux pas, au final, toute la question du sociofinancement, c'est très, très complexe, puis ça va jouer dans des sphères complètement impensées. On n'a pas eu le temps d'en parler en profondeur, mais Alex, avant d'entrer en ondes, tu me parlais de, justement de la problématique avec la Chine et Donald Trump. Ouais. Et tout le milieu du RPG.
Ben, c'est ça. Ben, en fait, la majorité de la production des livres de jeux de rôle sur table, ben, se fait en Chine. En fait, la majorité de tout ce qui est jeux de plateau. Mais c'est problématique en Chine parce que, ben, récemment, on disait justement que la guerre commerciale de Trump envers la Chine, ben, ça fait que, il y a plein de gens, bon, c'est pas si triste que ça, mais il y a plein de gens qui ont jamais leur livre. Récemment, un peu plus tôt dans l'année, je pense en mars, il y avait un jeu de rôle sur table dans l'univers de Lovecraft, et la Chine a littéralement brûlé. Brûler ces livres-là justement pour envoyer un message à Trump, mais c'est pas un message qui est important parce que la communauté de jeux de rôle de Lovecraft n'est pas aussi importante que ça aux yeux des Américains, mais n'empêche
quoi?
Que
quoi?
Quoi? Pourquoi?
Ça, c'est qu'il y avait une voix vraiment plus importante que ça.
Non, c'est ça.
C'est genre, ils ont un lobby aux États-Unis.
Non, c'est ça. Mais non, puis c'est ça. C'est politique, Kickstarter, le sous-financement, beaucoup plus qu'on
ben,
pourrait le croire.
Outre ça, même les Gugus, la plupart des Gugus dont on parlait tantôt vont être produits en Chine parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, la production massive de trucs, c'est qu'on l'envoie à la Chine. Fait qu'encore là, tu sais, ça vient avoir des impacts immenses sur les gens qui ont fait des pledges, qui sont supposés recevoir ces trucs-là aussi, là.
Puis après, on a aussi déjà des cas, on aurait pu en parler aussi, mais de qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces plateformes-là. Il y a quelques projets qui ont été retirés de plateformes de sous-financement, particulièrement des projets qui touchaient peut-être à des trucs par rapport à l'érotisme, ça j'en ai vu, de l'art érotique un peu plus extrême, tout ça, donc il y a la limite après ça entre ce qui est la bonne création, la mauvaise création, qui a droit un petit peu censure ou pas, donc il y a toute une autre porte qui s'ouvre, qui à long terme va être on va pouvoir se questionner parce que bon, si des communautés veulent financer certaines choses, on peut même tomber dans le discours haineux rendu là, mais je veux dire, il y a tout un pan de réglementation qui touche aussi ce qui est mis sur cette plateforme-là.
À l'intersection des communautés et de l'argent.
Voilà.
ça s'emmène tellement de problématiques complexes qui relèvent quand aussi, comme on disait, d'une réalité qui est socio-numérique, du capitalisme, du communautarisme
aussi. Mais qui est exactement le paysage de la culture populaire contemporaine.
Absolument.
C'est au cœur de toutes ces problématiques-là.
On vise une certaine démocratisation de la culture pop. De la création, de l'inclusivité, mais ultimement, tu sais, il y a beaucoup de problèmes. Trump, c'en est un. Le Brésil...
C'est un pas pire problème.
Non, mais le Brésil aussi, qui est incapable d'obtenir certains produits. Tu sais, récemment, je suivais une campagne d'une extension du jeu Root, qui est un des jeux les plus financés, et d'ailleurs qui est une compagnie qui a réussi à grossir grâce à la plateforme Kickstarter, et qui sont incapables d'expédier leurs produits au Brésil, à moins que les gens payent 150$ de shipping. Mais ça, c'est pas de leur faute, c'est juste le Brésil qui a des plusieurs problématiques, mais notamment frontalières.
qui est causée par une montée du nationalisme et du fascisme.
Le BFF de Donald Trump au Brésil. Puis, comme tu disais, la question des contenus eux-mêmes arrive à une espèce de problématique où on passe de la censure, puis dans les cas comme des pays comme le Brésil, quels contenus peuvent être affichés, montrés, ça commence à être difficile.
On veut plus de Christian rock.
Beaucoup plus de Christian rock, si possible. Des trucs super essentialistes. Mais il y a aussi des plateformes, puis je tiens peut-être à le mentionner avant de terminer, il y a beaucoup de plateformes, comme par exemple le projet OpenTV, qui sert justement à aider des créateurs de séries, de web-séries, queer, marginalisés, à faire arriver leur projet. Donc, ils les soutiennent avec des Kickstarter, qui les aident à aller chercher du financement du gouvernement pour créer, justement, des produits culturels par des personnes queer, pour des personnes queer, qui aident beaucoup les créateurs à mettre leurs trucs de l'avant. Donc, OpenTV, allez voir ça, il y a plein de trucs super cool là-dessus. Il y a des victoires, là, quand même, là. C'est pas tout horrible.
Non, c'est complexe.
C'est très complexe. Mais il y a des beaux projets quand même qui émergent de ce genre de trucs super problématiques-là, dont les trucs qui mettent de l'avant le travail de personnes marginalisées, qui est super important.
C'est ça. En attendant que les grosses industries décident d'investir 100% là-dedans, au moins, il y aura la communauté qui peut appuyer ces gens-là.
Un petit peu.
Donc, on va terminer avec ça. Merci à Alexandre, merci Roxane, merci Eric d'avoir été là avec nous. Merci aux auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés. J'espère qu'on ne vous fait pas trop paniquer avec nos questions sur la Chine et le Brésil.
Ouais, non, ça va bien se passer.
On va mal dormir ce soir, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Au moins, on va avoir nos Kickstarter qui...
Au moins, Critical Role va arriver bientôt avec sa série animée.
On va avoir nos T-shirts éventuellement par la main.
Exact.
Bon. Merci.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée. Merci.